Marc, chapitre 12, verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Amen. La réponse de Jésus, pour nous, est importante, pas uniquement celle-là, mais toutes les réponses dans les évangiles, les quatre évangiles, parce qu'elles valident la parole de Dieu. Nous savons que Jésus est Dieu, qu'il est venu sur terre et qu'il a accompli les Écritures. Et quand il cite des passages, ça donne du crédit justement à la véracité de l'Écriture et à la légitimité que c'est bien la parole de Dieu. Parce que Jésus lui-même a incarné toutes ces promesses qui ont été annoncées. Et là, il cite un verset de Deutéronome, chapitre 6, verset 4, dans toute son intégralité. Il s'appelle le Shema Israël. Le Shema Israël, c'est la confession de foi des Juifs, des Israélites, hein, qui commence avec cette déclaration. La déclaration « Écoute, Israël ». Vous voyez, déjà, être à l'écoute. Ça nous amène à ouvrir nos oreilles, à écouter Dieu. Non pas écouter nous, mais écouter ce que Dieu a à nous dire. Écoute, Israël. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est un. C'est capital à beaucoup d'égards, et je ne peux pas ouvrir tous les volets de cette déclaration, mais je voudrais juste rappeler que l'Éternel est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'aspect de la Trinité est venu du fait qu'on voit que Jésus parle au Père et que Jésus envoie l'Esprit. Donc on voit bien qu'il y a trois manifestations de Dieu qui ont été appelées par l'Église, hein, dont nous faisons partie dans les siècles passés, où ils se sont réunis pour décider, pour débattre de ces questions-là, trois hypostases. Comme le terme hypostase n'a pas été... Hypostase, ça veut dire soutenir, trois choses qui soutiennent la divinité. C'est Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le concile suivant, donc c'était Constantinople, le concile de Nice, d'Éphèse, ils ont parlé de trois personnes. Hein. Mais bon, personne, hypostase, vous voyez, tout ça, ça c'est des divinités, puisque Jésus est Dieu, mais en même temps, c'est un mystère. Hein. Je vois que vos figures voilà, évoque ce mystère. C'est un mystère. Hein. On n'a pas un mystère, ça reste un mystère, mais c'est une réalité quand même. Mais en même temps, cette réalité nous permet de comprendre d'autres choses. Mais pour l'instant, on reste sur cette déclaration de Jésus, l'Éternel est un. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette éternité de Dieu, dans cette façon de trois manières d'agir, puisque Dieu le Père a eu l'initiative de nous sauver l'humanité, parce qu'il a chuté avec Adam, eh bien il a envoyé son Fils. Il a envoyé cette personne qui s'est incarnée, qui est devenue homme, tout en étant Dieu, voyez. Donc il y a un plan qui s'est déroulé, un plan qu'on appelle de rachat, de racheter ce qui était perdu pour le remettre sur les rails. Quelque part, on a été remis sur les rails. Et ensuite, après, le Saint-Esprit est venu pour ressusciter Jésus. C'est lui la puissance de Dieu. Donc, vous voyez, il y a cette complémentarité dans le plan de Dieu, dans l'action de Dieu, dans la manière d'agir de Dieu, qui est communautaire. Et cette manière communautaire d'agir, c'est justement un modèle pour nous. Personne ne peut vivre tout seul. Personne ne peut agir tout seul. Personne ne peut être isolé tout seul. Déjà, ça renvoie à une réalité communauté. Réalité de vivre une complémentarité tout en étant... Et c'est la réalité du peuple de Dieu. Il n'y a qu'un seul peuple. Dieu n'a qu'un seul peuple. Alors, effectivement, il y a eu des divisions dans le passé et les hommes aujourd'hui veulent refaire l'unité. Mais l'unité n'est pas à faire, elle existe ou elle n'existe pas. C'est ça la difficulté. Et quand on est en Jésus, on est un. On est un. Dès qu'on est né de nouveau, on est un. Cette unité, elle existe. Alors après, il faut la manifester sur terre, et c'est une autre difficulté. Mais ça n'empêche qu'elle existe en Dieu. C'est pour ça que quand vous allez, je ne sais pas, en Chine, en Thaïlande, tout ça, même vous ne parlez pas la langue, vous sentez cette unité quand vous rencontrez des chrétiens. Est-ce que vous avez fait cette expérience-là ? Parce que c'est une réalité. On n'est pas dans un langage, une explication, une philosophie. C'est une réalité. C'est une réalité qu'on peut saisir, dans laquelle on peut entrer. L'Éternel est un, son peuple est un. Et c'est tout simplement l'enseignement de Jean 17, l'évangile de Jean, chapitre 17, où Jésus, avant de quitter cette terre, avant d'aller sur la croix, eh bien, il parle de cette unité des enfants de Dieu, de cette unité des frères en communion avec le Père. Donc nous vivons cette réalité et au niveau de la Pentecôte, puisque je n'avais pas tout à fait terminé mon message l'an dernier, la semaine dernière de la Pentecôte a changé le cours de l'humanité totalement. Il se trouve que la Pentecôte est une fête qui était fêtée par les Juifs, mais toutes les fêtes, elles étaient prophétiques. C'est-à-dire que ce que Dieu a institué pour son peuple, ce n'est pas les Israélites qui ont inventé les fêtes, ils ont simplement fêté, donc exalté un certain nombre de choses que Dieu a fait pour eux. Ce qu'il a fait, c'est les délivrer de l'esclavage de l'Égypte. Et si Dieu ne l'avait pas fait, vous voyez avec quelle puissance, avec quelle autorité, avec quelle majesté, Dieu les sort des griffes de Pharaon. Sinon, ils seraient restés, si Dieu n'était pas intervenu. Et bien sûr, le grand miracle, après tous les miracles qui y ont précédé, c'était bien sûr le passage de la mer Rouge, qu'ils ont célébré et qu'ils ont appelé le passage, la Pâque. Et ce passage, cette Pâque, a été célébrée, continue à être célébrée par les Juifs aujourd'hui, comme le salut qui a donné naissance au peuple, puisque c'est dans le désert du Sinaï, 50 jours après le passage, la Pentecôte, que Dieu leur a donné sa parole, leur a donné sa loi, leur a donné ses commandements. Et quand Moïse est monté sur la montagne, il a reçu les commandements de Dieu, la loi de Dieu, et qui est le fondement du peuple judéo-chrétien, puisque les Juifs, Jésus est juif, et était juif, et il a accompli la parole, et aujourd'hui, en tant que chrétien, nous sommes dans cette lignée judéo-chrétienne qui n'a absolument pas de rupture, c'est simplement un accomplissement de la parole. Et donc la Pentecôte, qui était la première loi de Dieu qui a été donné à son peuple sur le mont Sinaï, eh bien, la Pentecôte chrétienne, c'est la loi qui nous a été donnée, mais qui a été gravée dans le cœur. Et avant de penser don du Saint-Esprit, charisme, etc., qui est un peu la spécificité du pentecôtisme, c'est avant tout l'accomplissement de toutes les prophéties qu'on dit un jour, je mettrai cette loi dans le cœur. Et ça, c'est la nouvelle alliance. Donc la nouvelle alliance, c'est l'accomplissement de l'ancienne alliance qui, au lieu d'être gravée sur des tables de pierre, est gravée dans le cœur. Donc toute personne aujourd'hui qui accepte Jésus dans son cœur, eh bien, il reçoit cette loi qui est gravée dans son cœur. Après, il la suit, il ne la suit pas. Ça, c'est comme les Israélites, hein, ça n'a pas changé. ça n'a pas changé. Mais par contre, elle est écrite dans ton cœur. Dis-le à ton voisin. La loi est écrite dans ton cœur. Voilà. Ça, c'est la Pentecôte. On célèbre la loi qui a été écrite dans nos cœurs. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pour l'accomplir. Oui. La loi n'est pas abolie, elle est accomplie. Donc la loi est toujours vraie. Et c'est pour ça que Jésus la rappelle. Quand on lui pose la question, il a dit, voilà, écoute Israël, etc. Et ensuite, après, il parle du prochain. Et après, il prend toutes les paraboles de Samaritain, etc., comme vous connaissez. Hein. Et ça, c'est la base. Il faut revenir à la base du christianisme. Hein. Sinon, on se perd. Hein. OK. La Pentecôte a changé le cours de l'histoire en permettant un nouveau commencement de l'humanité, une nouvelle humanité. C'est la première récolte. Alors là, c'est le deuxième accomplissement des fêtes qu'on appelle les fêtes agricoles, puisque le peuple juif, donc là, c'est des fêtes historiques hein, dont je parle, passage de la mer Rouge, réception de la loi au mont Sinaï. Mais les juifs aussi, ils fêtaient la partie agricole de pouvoir subsister. Dans le désert, il subsistait par la manne, parce que dans le désert, par définition, il n'y a rien. Donc Dieu pourvoyait. Mais quand ils sont allés dans le pays de Canaan, on coule le lait, le miel, voilà, eh ben, ils vivaient de l'agriculture. Comme nous, aujourd'hui, on vit aussi l'agriculture, qu'on oublie, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs, mais on a besoin de nourriture, voilà, pour survivre. Eh bien, ils fêtaient les premières récoltes et les dernières récoltes pour rendre grâce. Et nous, dans l'Église, on fait Thanksgiving, qui est une fête de reconnaissance. Bon, on le fait habituellement sur la date des Américains, mais on pourrait le faire sur la date des Français. On a toujours eu cette fête agricole. Hein. L'Église catholique a toujours fêté ce qu'on appelle les récoltes, sauf que c'est début octobre. Et au Canada, ils sont toujours début octobre. Sauf que les États-Unis ont un vécu particulier avec les Pilgrim's Fathers. Vous connaissez maintenant l'histoire parce qu'Olivier la met en scène tous les ans. Bon, ceci étant, la fête de la moisson, la première récolte, c'est Pentecôte. Et la fête de la dernière récolte, c'est la fête des tabernacles, la fête des huttes, la fête des tentes, la fête qui se fait en octobre en Israël. Et ça, c'est une deuxième accomplissement des prophéties. La première à la Pentecôte, c'est le début de l'Église. Et fête des tabernacles, ce sera la fin de l'Église. Vous voyez, tout a un sens, un accomplissement, une histoire. Il suffit de la comprendre. Cette première récolte, la fête de la Pentecôte, était l'analogie de ce nouveau départ, d'une nouvelle humanité, d'un nouveau peuple qui a la loi écrite dans son cœur. Ce sont les premières nouvelles naissances d'êtres humains suite à la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité à Pâques, il est ascensionné à l'Ascension et il envoie son esprit à la Pentecôte sur ses disciples et sur tous ceux qui sont venus en Israël pour la fête de la Pentecôte. C'est le début de l'Église. La Pentecôte a bouleversé l'ordre du monde en passant de l'homme pécheur à celui de l'homme saint à l'image de Dieu. Nous sommes aujourd'hui un sacerdoce royal, une nation sainte, non pas par nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, qui l'a voulu. Et c'est lui le premier d'une nouvelle race. Dans le jardin d'Éden, le premier, c'était Adam. Et nous sommes tous de la descendance d'Adam, sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, quand nous avons accepté Jésus, nous sommes descendants de Jésus. Donc nous avons deux natures. Hein, dis à ton voisin, ta voisine, tu as deux natures. Tu as deux natures. Hein. Une nature naturelle que tu as de tes parents, tes enfants, voilà, où il y a une descendance biologique, la procréation. Mais tu as une nature spirituelle qui vient de ce que tu as donné ton cœur à Jésus. Et là, tu reçois une nature spirituelle. Donc tu as deux natures. Hello? J'espère que je ne vous ai rien appris aujourd'hui, pour l'instant. Donc on a deux natures. Et la nature spirituelle, c'est Jésus ressuscité qui est venu apparaître. Hein, c'est l'unicité de la religion chrétienne. Hein, il existe, toutes les autres, ce sont des sagesses, hein, des philosophies, elles sont bien. Mais dans le christianisme, c'est un homme qui est mort, qui est ressuscité et qui a prouvé qu'il est ressuscité, qu'il est apparu, qu'il a mangé avec ses disciples, qu'il a prouvé que voilà, Dieu a fait quelque chose de particulier dans Jésus. Amen. Et nous, nous sommes de cette race nouvelle et par la foi, nous participons à cette nouvelle race qui a été démarrée en Jésus, ressuscité. Donc voyons ce que la Pentecôte a changé. Lorsque Jésus était physiquement sur la terre, il a demandé aux gens de croire en lui et de le suivre. Il dit à ses disciples qu'il partirait, il les a prévenus, il partirait pour retourner de là où il était venu. Jean 3, 13. Toutefois, il ne nous laisserait pas sans l'aide de quelqu'un. Il l'a appelé le consolateur. C'est-à-dire quelqu'un comme lui qui va nous consoler, qui va nous aider, qui va nous soutenir. Dans Jean 14, Jésus dit à ses disciples, qui seront bientôt les apôtres, hein, qui vont écrire la parole de Dieu du Nouveau Testament, des Évangiles, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Dans Jean 16, il dit, au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez, je parlais d'une communication entre les trois personnes ou hypostases qui soutiennent la divinité, de cette communauté parfaite, hein, en Dieu, où le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus, il nous le donne, Jésus envoie le Saint-Esprit, vous voyez, et il est en contact avec le Père, vous voyez, toute cette communion, cette communauté qui nous parle effectivement d'harmonie, de paix et de joie. L'Esprit, en tant que Jésus, c'est une communication personnelle, de la même manière que Christ communiquait avec son Père, nous avons donc les passages de Jean 2, 32, etc. L'Esprit annonce à l'homme, ce qui est également une communication personnelle. Donc vous voyez, c'est dans cette communication que nous sommes entre l'Esprit qui communique à l'homme, qui communique avec Jésus. Vous voyez, nous sommes dans cette communion avec le divin, avec Dieu. C'est pour ça qu'on parle de relation avec Dieu. Le moyen de communication principal est celui des Écritures. Il reste celui des Écritures parce qu'il est objectif. Les Écritures nous ont été transmises et elles sont sans erreur. On appelle l'inhérence de l'Écriture. Voilà, dans les expos Bibles, on explique ça de moult façons, qu'elle nous est parvenue avec beaucoup, beaucoup moins d'erreurs que toutes les autres littératures de son temps, et en particulier des Romains de l'époque. Dieu désire nous aider. Il nous sauve, mais il nous aide. Il ne se cache pas. Il veut s'impliquer dans tous les aspects de notre vie. Avant d'être sauvé, Dieu est là. Et beaucoup d'entre vous témoignent de ça. Hein. Même avant qu'on ne le connaisse, Dieu s'occupe de nous, parce qu'il nous a créés. Mais il veut s'impliquer, il souhaiterait s'impliquer, donc il s'invite à la porte de nos cœurs, et on lui ouvre pas. Il voudrait s'impliquer dans tous les aspects de notre vie. Et là, il fait une œuvre. Le Saint-Esprit fait une œuvre particulière pour pouvoir entrer dans nos cœurs. La première chose qu'il fait, c'est qu'il veut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu tel que nous sommes. Et c'est toute la parabole que Jésus utilise de cette invitation aux noces. hein, où il faut revêtir un vêtement blanc pour rentrer dans la noce. C'est normal, parce que si on rentre tel que nous sommes dans ce nouveau royaume, de ce nouveau peuple, eh bien, on va le polluer tout de suite. Donc Dieu a prévu de nous purifier, de rentrer dans la justice, de rentrer dans l'équité, dans la paix, dans la joie, tout ce qu'on a dit. Donc il veut d'abord nous convaincre, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, etc. Donc c'est Jean 16. Et lorsque quelqu'un croit qu'il est pécheur, eh bien là, il peut se tourner vers Jésus. Parce que quand on ne sait pas qu'on est pécheur, on n'a pas besoin de Jésus. On peut vivre sa vie normale, et les gens vivent leur vie sans Jésus. Le fait de vouloir de Jésus, c'est parce que d'abord, il faut être convaincu qu'on a besoin. Sinon, on ne va pas le demander. Donc c'est là la fonction du Saint-Esprit, de nous montrer que nous sommes pécheurs. Je prends juste à titre d'exemple, vous voyez là on a la frise historique des réveils. Et les réveils depuis la Réforme, ce sont régulièrement des prises de conscience de cette conscience du péché, justice du Saint-Esprit. Et je ne sais pas où il est, Wilsworth, là, c'est au 19e, quand il a prêché, vous lisez son sermon, il n'a rien de spécial, son sermon, il est très ordinaire. Mais à ce moment-là, Dieu a décidé de réveiller le peuple de ce moment-là, c'était à New York. Et ben, les gens, d'un seul coup, ont pris conscience qu'ils sont pécheurs. Et ils ont hurlé, toute l'assemblée s'est transformée en un big mess, comme on dit ça, un gros bazar. Hein. Parce que tout le monde a pris conscience qu'il est pécheur. Peut-être en ce moment, vous n'avez pas cette conscience-là, parce qu'on n'est pas dans un réveil. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'aide mutuellement à ne pas tomber dans le sommeil. Mais quand il y a un vrai réveil, cette conscience, c'est Dieu qui la met dans le cœur. Et il hurlait et il s'accrochait parce que il y avait beaucoup de colonnes, il y avait, je sais pas, une centaine de colonnes, c'était un grand building. Ils s'accrochaient tous aux colonnes parce qu'ils se sentaient partir dans l'enfer. Et ça, c'est la conscience d'être pécheur. Et bien sûr, après, c'était facile d'accepter Jésus et de vivre une vie de réveil puissante parce qu'ils ont pris conscience. Effectivement, d'une réalité qui, d'habitude, n'a pas ce niveau de conscience. Et ça, c'est le réveil. Le réveil d'être pécheur, le réveil d'avoir besoin de Jésus. Pour l'incroyant, le Saint-Esprit a le ministère de le conduire au Fils. Il a été envoyé pour convaincre chaque personne de péché, de justice et de jugement. D'abord le péché, pour lui montrer qu'il est pécheur, qui a manqué la cible que Dieu avait pour lui, de pouvoir vivre dans l'harmonie avec Dieu, de vivre dans le bien, et non pas dans le bien et le mal, puisque l'expérience du mal est apparue quand l'être humain a voulu être indépendant de Dieu. Deuxièmement, la justice. Le Saint-Esprit veut convaincre de justice pour le convaincre qu'il n'est pas juste par lui-même. Et le problème de la justice, c'est très fort dans chacun de nous. On veut la justice et on cherche la justice. Et un des gros problèmes de ces élections, vous le savez, c'était justement ce sentiment qu'il n'y a pas la justice. Les hommes politiques ne sont pas dans la justice. Ils veulent la justice, mais en fait, ils ne prônent pas. Donc, ce sentiment de justice est très fort en chacun de nous. C'est normal. Et le Saint-Esprit doit nous convaincre que nous ne sommes pas justes. Ce n'est pas que les hommes politiques, que les autres. Nous, ça commence par nous. Vous voyez ? Pas les autres. Nous ne sommes pas justes. Et nous ne pouvons pas être acceptés par Dieu comme ça. Donc il faut la foi en Jésus qui lui est juste. Donc il faut une substitution de cette justice. Et enfin le jugement. Saint-Esprit nous convainc de jugement. En ce sens qu'il y a plus que cette vie, qu'un temps viendra où on devra rendre des comptes sur la façon dont nous avons vécu. Il y a une vie après la mort, comme l'éternité dans nos cœurs, et nous savons qu'il existe plus qu'une vie physique. Si nous sommes sauvés, c'est par grâce, mais après la grâce, nous devenons chrétiens. et nous pouvons continuer à pécher. Non ? Il n'y a plus personne, quelqu'un qui est saint ici, qui ne pêche jamais ? Alors, je vais demander à votre conjoint si c'est vrai. Non. Donc, le chrétien qui continue à pécher, bah, il n'est pas dans la justice. Ouais. Donc, ça s'appelle la sanctification. Et pour ça, nous serons jugés. Nous serons jugés. Bon, nous n'irons pas en enfer si nous avons péché, mais voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Et donc, il vaut mieux chercher à rester juste en étant chrétien. Hello ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est la sanctification. C'est pour ça que dans l'Église, ici, on essaye voilà, de vivre de manière cohérente, comme le dit notre ami Bruno. Cohérent, parce que nous croyons qu'il y aura un jugement dernier. Et tous les chrétiens passeront au jugement dernier. Hello ? Et nous n'échapperons pas à ce jugement. Donc, en résumé, la première œuvre du Saint-Esprit est de montrer à quelqu'un qu'il pêche, qu'il a besoin d'une justice qu'il ne possède pas. Et éventuellement, au fur et à mesure que son œuvre progresse, la personne entendra parler de Jésus qui pardonne le péché et de l'évangile, la bonne nouvelle, pour qu'il puisse être sauvé. Donc il y a un travail qui se fait quand quelqu'un entend l'évangile. Il doit y avoir une influence morale sur notre vie. Ça, c'est très important. Dieu est un être moral. Il est bon, mais il rejette le mal. Le bien et le mal existent, parce que le mal, c'est la capacité bien de ne pas suivre Dieu, et c'est ce que voilà, Satan il a fait, et que nous faisons si effectivement nous sommes entraînés dans ce sens-là. Donc nous sommes un être moral, nous pouvons faire le mal et nous pouvons faire le bien. Il y a une influence morale, il doit y avoir une influence morale sur le chrétien quand il suit le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, pour produire le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est le fruit du bien dans nos vies. Alors, vous connaissez les fruits de Galates ? Galates 5, 20, les fruits de la chair et les fruits de l'Esprit. Ben, le chrétien peut produire les fruits de la chair. Et ça, c'est mal. Donc, vous voyez, nous sommes un être moral, mais nous ne sommes pas conditionnés à faire que le bien. Nous pouvons aussi faire le mal. Et c'est pour ça qu'il faut toujours accepter que les autres puissent parler dans notre vie. Si nous disons non, ce n'est pas vrai, nous sommes dans le déni et nous ne pouvons pas changer. Donc il faut accepter que les autres puissent nous dire ça, ça ne va pas dans ta vie, ça ne va pas dans ta vie. Ça dépend comment c'est fait, on est d'accord, mais peu importe comment c'est fait, même si c'est un inconverti qui vous parle, qui vous dit dans la rue ça ne va pas, il faut que vous l'acceptiez si vous voulez changer. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'acceptent pas. Ah ben, vous voyez ce que ça donne, il suffit de regarder leurs fruits. Ouais. C'est pas parce qu'un chrétien est chrétien qu'il est bien, non. C'est qu'après, il faut qu'il suive la voie de la sanctification. Il faut qu'il accepte que les autres parlent dans sa vie, y compris les pasteurs et surtout les pasteurs. Et beaucoup ne l'acceptent pas. Et donc ensuite, après, eh bien, il dévie fortement. Donc, le Saint-Esprit va avoir une influence morale sur notre vie pour produire le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit est l'exécuteur de la nature de Dieu. Il exécute ce qui est en Dieu en nous. Et ce qui est en Dieu, c'est bien. C'est pas mal. Il est la source de la nouvelle naissance et le produit de la nature de Christ dans nos vies. Il nous conforme à la nature de Jésus. Le Saint-Esprit nous conforme dans la nature de Jésus, si nous le laissons agir. Il révèle la nature de Dieu en transformant le croyant à son image. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit, à condition, il faut toujours mettre des conditions, à condition que nous le laissions agir. Alors pourquoi parfois dans nos vies nous avons des périodes super et ensuite des périodes moins super et tout ça, voilà. Parce que nous commençons à remarcher dans la chair, mais c'est pas grave si nous revenons à l'Esprit. Et Paul s'est mis très très en colère contre les Galates, parce que voilà, les Galates commençaient à aller dans le légalisme. Et là, ils étaient perdus, quoi. Ils perdaient complètement le bénéfice de la grâce de Dieu. Et très souvent, nous sommes pris par le légalisme, par le laxisme, hein, qui est l'inverse du légalisme, par toutes sortes de ismes. Hein. Tout ce qui est isme, c'est idolâtre. Toutes sortes de ismes. Hein. Hello ? Donc il y a des conditions. et ne sont pas automatiques parce que nous sommes chrétiens. Le fruit de l'esprit est manifesté, c'est une conséquence de notre action de soumission à l'esprit. Le fruit de l'esprit n'est pas automatique parce que nous sommes chrétiens. Le fruit de l'esprit est une conséquence de notre soumission. C'est-à-dire qu'il y a une action qui nous revient en tant que chrétiens de nous soumettre à Christ. Et là, le fruit de l'esprit peut venir. Ce n'est pas nous qui nous sauvons, ce n'est pas nous qui agissons, ce n'est pas nous qui faisons, sauf que nous nous soumettons. Et c'est le principe d'enseignement de Jésus dans Matthieu 16, 24, qui dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Lorsque quelqu'un croit dans l'Évangile, alors c'est 1 Corinthiens 15, 1, 4, le Saint-Esprit lui est donné comme un sceau. Vous voyez, il y a un sceau. Comme les fameux sceaux du roi. C'est un sceau qu'il est justifié selon la nouvelle alliance. Voilà. Il a un sceau de justification. Il est dégagé de toute culpabilité. C'est pour ça que si vous avez une culpabilité qui vient, alors elle peut être juste, hein, votre culpabilité, demandez pardon. Ouais. Effectivement, il n'est pas question que vous fassiez tous les péchés du monde en tant que chrétien et vous ne vous sentiez pas coupable. Non. Si vous sentez coupable et que vous savez ce qu'il faut faire pour établir, mais allez par le chemin de la repentance. Et ensuite, après, vous pouvez refuser toute culpabilité parce qu'en Jésus, vous êtes plus coupable. Mais il faut faire une action. Passer par la repentance. C'est pour ça, dans le torrent, première action, c'est la repentance. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc c'est le sceau du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Nous sommes intégrés dans le corps spirituel de Christ, le corps de Christ, qui est une réalité. Et nous prenons part au Saint-Esprit qui réside maintenant en nous et qui réside littéralement en nous. Tout ceci est accompli par la foi. Dans Éphésiens 3, 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez vivre dans l'esprit, etc. Dans Romains 8, verset 9, il est dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Dans Galates, chapitre 3, verset 26, il est écrit « Car vous êtes tous fils de Dieu. » Dans la foi en Jésus-Christ. Vous avez tous été baptisés en Christ et vous avez revêtu Christ. Donc, vous voyez, c'est une sorte de revêtement. Quand on devient chrétien, on revêt Christ. Et c'est à nous d'accepter ce vêtement, ce revêtissement, ou pas. Donc c'est marcher par la chair ou l'esprit. Nous pourrions continuer par marcher par la chair, mais nous n'aurons aucun produit, aucun fruit de l'esprit. Nous auront le fruit de la chair. Et c'est pour ça que dans les communautés, parfois, c'est difficile et il y a beaucoup de problèmes parce que, eh bien, on ne marche pas dans l'esprit. Nous venons de lire que nous sommes baptisés par Christ, en Christ par l'esprit. Il y a aussi le baptême d'eau, vous le savez, et le croyant devrait d'abord, bien sûr, se faire baptiser d'eau aussitôt que possible, parce que le baptême d'eau est le sceau de la nouvelle alliance. Il scelle cette alliance. Quand vous avez rencontré le Christ, vous l'avez accepté, il y a un sceau qui est sur vous et il se fait au moment du baptême parce que vous vous engagez avec Dieu. C'est l'équivalent de la circoncision dans l'ancienne alliance qui scellait cette appartenance au peuple juif. Parce que le consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, est maintenant avec nous, en nous. La vie changera de façon radicale. On est supposé changer de façon radicale. Les prédicateurs du réveil que mon épouse Michel a connu dans les années 50. Il disait que quand quelqu'un se convertit, même le chien doit le savoir. Eh oui, même le chien doit s'en apercevoir. Oui, parce que si vous criez sur votre chien, tout ça, vous ne le faites plus quand vous êtes converti. Et c'est une réalité. Dans les mines, donc là, on remonte en 1906, là, dans ce réveil-là, ici, là, enfin, voilà, dans cette période-là, hein, 1904-1906, il y a eu un réveil au Pays de Galles, on appelle ça le réveil du Pays de Galles. Et ceux qui étaient touchés le plus, c'était les ouvriers les plus pauvres qui existaient, parce que l'Église anglicane les avait rejetés. Vous voyez, déjà à l'époque, il y avait un rejet de l'Église officielle d'Angleterre de s'occuper des mineurs. Parce que, voilà, c'est des parias et tout ça. Voilà. Effectivement, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient rien, tout ça. Et dans les mines, eh bien, à l'époque, il y avait des chevaux, hein, ils descendaient des centaines de mètres dans les mines. C'était horrible, hein, ce qu'ils vivaient. Même des enfants ont travaillé à 12 ans dans les mines. Et les chevaux faisaient marcher les wagonnets, hein, il n'y avait pas encore truc. Et comme c'était des hommes, voilà, de tout venant, hein, ils faisaient marcher les chevaux en jurant tous les noms qui sortaient, etc. Faisaient marcher les chevaux, hein, parce que c'était leur langage, quoi. Et quand ils ont été touchés par le Saint-Esprit, qui les a convaincus de péché, de justice, de jugement, dont je viens de parler, qui ont été changés, qui ont été transformés, que le Saint-Esprit est devenu une nouvelle nature en eux, eh bien, ils ne pouvaient plus jurer. Ils ne pouvaient plus. Ça ne sortait plus. Eh bien, ils ont dû remonter tous les chevaux, parce que plus rien ne marchait. Tous les chevaux, ils ont dû les remonter, parce que tout était bloqué dans les mines, et ils ont dû remettre des nouveaux chevaux pour qu'ils comprennent les ordres qui leur étaient donnés. Vous voyez, ça, c'est une transformation. C'est pour ça que je dis, même le chien doit s'en apercevoir chez vous. Si personne ne s'aperçoit que vous êtes converti, c'est grave. Hein. C'est grave parce que ce n'est pas la nouvelle naissance. C'est un semblant, c'est du fake, hein, comme disait un Donald qui tweet. C'est du fake, mais ce n'est pas de l'authentique. L'authentique change les choses. Votre femme doit s'en apercevoir, votre mari doit s'en apercevoir, vos enfants doivent s'en apercevoir, vos parents doivent s'en apercevoir, vos familles doivent s'en apercevoir, votre boss doit s'en apercevoir, et votre chien, et votre chat. Hello? Hello? Tout le monde doit voir qu'il s'est passé quelque chose parce que vous ne vous comportez plus de la même manière. Amen. Le Saint-Esprit est en vous. Quand le Consolateur vient, il change notre vie de manière radicale. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, il est dit « Car nous sommes tous le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » C'est important ça. C'est important, c'est grave. Dans 1 Corinthiens 3, 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Un petit peu plus loin, dans le chapitre 6, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Et vous, on ne s'appartient plus à soi-même. Vous voyez, des tout petits bébés, vous voyez, enfin, quand ils grandissent, ils disent « je veux ». En tant que chrétien, on dit « Seigneur, toi, tu veux ». Mais il ne faut pas que ce soit juste une forme de langage, que ce soit une réalité. Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux ? Et c'est pour ça que la question, c'est quoi la question, how do you do, là, ce que Jésus veut, voilà, pour les jeunes, là, qui est ça. What Jesus do? What would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait à votre place? Voilà, c'est une question qu'il faut se poser. Romains 8, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça, c'est une promesse encore qui va venir. Notre corps sera totalement changé. Alors, si tu veux changer ton corps, bon, pour certaines raisons, ce n'est pas un problème, mais ton corps sera changé totalement lorsque Jésus va revenir. Et notre corps sera parfait, comme celui de Jésus. Amen. Donc vivons de cette espérance, parce que c'est une espérance qui va se réaliser, parce qu'elle fait partie du plan de Dieu, et nous avons déjà les prémices en Jésus, puisque lui, c'est le premier homme de cette nouvelle race qui est apparue sur la terre. Tout croyant est scellé du Saint-Esprit. C'est Éphésiens 4, 30. Et le Saint-Esprit est l'onction. Alors c'est quoi l'onction? On parle beaucoup d'onction. L'onction. L'onction, c'était à l'époque de l'Ancien Testament une huile très élaborée. Hein. Il fallait des semaines pour la faire et tout ça, qui servait pour oindre les prophètes, oindre des rois, oindre des ministères particuliers, etc. Et cette onction, bien sûr, elle est prophétique, hein, puisque tout ce qui est dans la parole, c'est prophétique. Ben, cette onction, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous le donne. C'est un sceau qui est placé sur nous pour nous garder, nous aider à vivre notre vie chrétienne. C'est saint. C'est être consacré, être sacré vers une cause qui nous dépasse et qui vient de Dieu. Et très souvent, les chrétiens prennent le Saint-Esprit un peu comme un boy, hein, voilà, fais ceci, fais cela, machin, etc. Non, il nous consacre. Il nous consacre. Et là, il faut prendre les choses très, très au sérieux parce qu'il nous consacre pour une cause, pour une mission qui nous dépasse et qui ne nous appartient pas, qui est de glorifier Dieu. Par conséquent, chaque croyant est oint du Saint-Esprit, est consacré à Dieu. Tous les croyants ont le Saint-Esprit, sinon ils ne sont pas nés de nouveau. Vous savez, c'est cette grande bagarre entre les charismatiques, les non-charismatiques, les évangéliques, les pentecôtistes, tout ça, ça ne devrait pas avoir lieu. Ça ne devrait pas avoir lieu. Parce que c'est un non-sens. Tout chrétien, qu'il soit évangélique, qu'il soit protestant, qu'il soit peu importe, quand il est né de nouveau, il est consacré à Dieu. Il est oint du Saint-Esprit. Il est un pentecôtiste. Point barre. Parce que sinon, il ne serait pas chrétien. Il ne serait pas né de nouveau. Voyez. La Pentecôte, c'est ce qui nous fait entrer dans un seul peuple. Il n'y a pas 36 peuples. Il n'y a pas 36 dénominations et qui se bagarrent les uns les autres. Ça n'a pas de sens. Hein. De toute façon, les charismes, ce n'est pas fait pour nous donner des médailles. Hein. C'est pour servir. C'est fait pour servir. Servir les autres. Et très souvent, on en fait des médailles et on se glorifie de certains dons sur les autres. On fait des hiérarchies de dons et tout ça. Tout ça, ça n'a pas de sens au point de vue de la théologie évangélique. Si un croyant a le Saint-Esprit, il l'a pleinement. Il n'a pas à moitié. Le Saint-Esprit, il ne se découpe pas en morceaux. Vous voyez, le Saint-Esprit, ce n'est pas un truc qu'on manipule et qu'on... Voilà, je te donne un morceau, je te donne un morceau du Saint-Esprit, je te donne un morceau du Saint-Esprit, c'est quoi ça, hein? Et ça n'a pas de sens. Enfin, c'est un non-sens, c'est une hérésie. Puisque c'est une hypostase, le Saint-Esprit est une hypostase, c'est une personne, c'est fait partie de Dieu, il est Dieu, on ne peut pas découper Dieu en morceaux, vous voyez. Et très souvent, les humains, dans leur comportement, dans leur enseignement doctrinaux, eh bien, font cela, ils ne se rendent même pas compte de leur folie. Le Saint-Esprit ne peut pas se manipuler, comme Jésus d'ailleurs non plus. Dans Jean 17, il est dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Par contre, il y a un degré d'ouverture à l'Esprit. Si le Saint-Esprit nous est tous donné, charismatique, non charismatique, évangélique, libre ou pas libre, ou j'en sais rien, peu importe, nous avons tous un seul esprit. Par contre, que ce soit dans une église de Pentecôte ou une église charismatique ou non charismatique, selon le degré d'ouverture au Saint-Esprit, c'est ça qui change les choses. Oui. Donc ne jugeons pas qui que ce soit, quoi que ce soit, ou surtout pas avoir une médaille en disant « Ah, moi je suis pentecôtiste, je suis charismatique, je suis au-dessus des autres. » On ne le dit jamais comme ça, hein. Bon, bien sûr, c'est caché. Nous, avec Michel, on s'est connus à Paris dans les milieux universitaires où il y avait beaucoup dans les GBU des évangéliques libres, enfin des évangéliques non charismatiques qui évangélisaient, dont d'ailleurs Roger Guibal, enfin tous les vieux de la vieille là, d'Aix-en-Provence, je ne me rappelle plus le nom, les fameux professeurs là, on travaillait avec eux. Et puis Roger Adoul. Roger, qui a créé la Ligue pour la lecture de la Bible, hein, qui est un fondement aussi de la lecture biblique. Moi, je me suis converti avec les éléments de la lecture de la Bible. Ah ben, il était à Paris, pasteur à côté de la place d'Italie, là, où les arts et métiers, là, juste derrière, place d'Italie, cherche le nom de son église. Ça m'échappe à l'instant. Les Gobelins, voilà, les Gobelins. Et puis, voilà, vraiment des gens, voilà, ils étaient anti-charismatiques. Et puis, le conseil lui a dit, je voudrais que tu prêches sur les dons du Saint-Esprit. Ah, il dit, bon, ok. Donc, il s'est mis à étudier le lundi pour le dimanche où il devait donner ce message, parce que d'une église de frères. Et pendant qu'il préparait, il a commencé à parler en langue. Pendant qu'il préparait. Parce qu'il était en train de préparer en disant, ça n'existe pas, etc., etc. Mais son cœur était tellement ouvert. Bon, il n'a pas donné. Il est ce jour-là, il dit, je ne peux pas prêcher, il s'est assis. Voilà. Ouais, parce qu'il n'était pas un objet de scandale. Ça, c'est de l'humilité. Ça, c'est de l'humilité. Ouais. Il aurait pu dire, mais il savait qu'il allait tout casser, tout ça. Et, voilà, il avait la sagesse. Et Elie Chouaquier, pareil. Il nous a expliqué ça quand on était à Montréal. Mais personne ne le sait. Bon, je pense que sa femme, tout ça, doivent le savoir. Mais il est mort depuis, et tout ça, il l'a gardé. Parce que c'est un homme de paix. C'est un homme qui respecte. Et ça ne change rien. Et il avait une parole puissante sans qu'il mette en avant ce qu'il a vécu, ce qu'il n'a pas vécu. Vous voyez, ça, c'est de la sagesse. Nous, on peut le déclarer officiellement parce qu'on est dans un mouvement pentecôtiste. Mais vous voyez, ce qui importe, c'est l'ouverture qu'on a au Saint-Esprit qui détermine l'expérience que nous avons de la puissance de l'Esprit. Moi-même, je cherchais Dieu quand j'étais jeune. J'ai rencontré à 20 ans et puis on m'a parlé voilà, de l'expérience du Saint-Esprit. Et je le voulais. Et donc, j'étais entouré de gens qui uniquement croyaient à ça. Donc, j'étais bien entouré. Et j'ai cherché à le recevoir. Donc, j'allais l'imposition des mains tout le temps, etc. Voilà. Fait une expérience puissante dans l'esprit 2 ans après ma conversion, mais j'arrivais pas à parler la langue. Et j'ai mis 15 ans à chercher, jusqu'à ce que je le reçoive, parce que c'était mon ouverture qui bloquait. C'était pas le Saint-Esprit, vous voyez ? C'était mon ouverture. J'étais pas ouvert parce que je rationalisais les choses, je voulais pas dire n'importe quoi. Enfin voilà, j'avais des réticences, et ça. Ça empêche simplement le Saint-Esprit d'agir. C'est pas qu'il était pas là. Il était là beaucoup plus puissamment 15 ans avant. À Rouen, quand j'ai vécu une expérience incroyable dans une assemblée de 600 personnes. Mais voilà, je voulais quand même accéder au parler en langue, mais je n'y arrivais pas, parce que c'était moi qui bloquais. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc n'imputons rien au Saint-Esprit, n'imputons à nous, est-ce que nous sommes ouverts, nous ne sommes pas ouverts. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se culpabiliser, je ne me suis jamais culpabilisé pendant 15 ans. C'est simplement chercher, pour finalement arriver à recevoir. Voyez, c'est une persévérance. C'est que nous devons avoir envie de vouloir mieux connaître Dieu, c'est tout. Et le résultat est au bout, Dieu répond toujours, puisqu'il est là. Le Saint-Esprit n'est pas coupé en morceaux, il est là, il est disponible. Donc ceux qui veulent chercher et vous trouverez. Amen. Notre degré d'ouverture au Saint-Esprit détermine l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Alors je laisse de côté, bien sûr, la décision souveraine de Dieu, qui peut à un moment donné envoyer la puissance de Dieu, ça c'est Dieu. Mais je parle de notre expérience quotidienne. Je termine par un certain nombre de choses qui sont importantes. Le Seigneur restaure notre nature morale. Nous devons bien discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et le Seigneur est un être moral et nous sommes un être moral. Nous avons perdu dans le jardin d'Éden cette notion de morale, puisque nous nous sommes ouverts à l'ennemi qui nous pousse au mal. Et aujourd'hui, le péché nous pousse au mal. Et nous sommes dans la confusion. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? En tant que chrétien, on se pose la question, est-ce que ceci est bien, est-ce qui est mal ? Mais si nous prions, le Seigneur nous donne la paix, même si c'est des choses parfois difficiles à discerner. Parce que le Seigneur est un être moral, il veut que nous fassions du bien. Et le bien, c'est en Dieu, et le Seigneur ne donnera que un discernement pour le bien et pas pour le mal. Mais il faut que nous cherchions à vouloir faire le bien, et le Seigneur nous le montrera. Très souvent, c'est les sentiments qui nous empêchent de bien, parce que nos sentiments sont issus de nos désirs profonds, voilà, nos désirs de ceci, nos désirs de cela. Et ça, ça brouille, vous voyez, ça brouille. Donc, pour sortir des désirs, nous avons des désirs, et ça, c'est des pulsions, hein, donc ce n'est même pas de Dieu, c'est notre nature, c'est de nouveau la chair, eh bien, adressez-vous à quelqu'un d'autre, un pasteur, enfin quelqu'un de sage, quoi, hein, qui ne va pas vous entraîner dans des choses là, qui ne sont pas justes. Mais pour sortir des sentiments, eh bien, acceptez d'être ouvert à quelque chose d'extérieur à vous qui puisse vous renvoyer. Est-ce que vous posez des questions, etc. Voyez, et petit à petit, vous pouvez discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Le Saint-Esprit veut nous réconforter, nous diriger, nous conduire dans toute la vérité en nous révélant sa parole. Et c'est toujours conforme à la parole. Soit toujours conforme à sa parole. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais vous inspirer dans quelque chose qui n'est pas conforme à la parole. Nous sommes prédestinés, nous dit Romains, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Jésus, c'est le premier-né de toute la lignée, de toute la famille spirituelle dont nous sommes issus. Nous sommes frères et sœurs de Jésus. Et Jésus va nous révéler ce qui est bien ou ce qui est mal par son esprit. Il veut que nous portions ces valeurs morales pour porter du fruit à sa gloire. Alors que faire ? Ben, c'est un processus douloureux, une expérience d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle la vie chrétienne, hein, selon notre coopération avec lui, si nous coopérons avec lui ou pas, si nous voulons aller tout seul dans la vie chrétienne ou si nous voulons coopérer avec le Saint-Esprit. Si nous coopérons avec lui, les épreuves, vous aimez les épreuves ? Non. Mais les épreuves ont une vertu. Elles nous sont données justement pour mieux coopérer, pour voir que bah, là on s'est planté. Et c'est pour ça qu'il faut être humble pour accepter d'avoir fait des échecs. Et c'est pour ça que dans cette église, on vous autorise à faire des échecs. On ne vous pousse pas à faire des échecs, mais on vous autorise, parce que si vous faites un échec, vous apprendrez beaucoup plus que si vous réussissez tout. Beaucoup plus. Moi, je suis un peu comme ça, hein. J'ai toujours eu besoin d'une expérience pour comprendre une théorie ou machin, etc. Et l'épreuve, quand on échoue, eh bien, ça nous permet de dire « Ah, c'est ça que je ne devais pas faire. Ah, ben oui, d'accord. » Ok, donc j'ai appris quelque chose. Et je ne l'ai pas appris à l'école ou par quelqu'un. Je sais qu'il ne faut plus que je touche à ça. Voilà, c'est tout. Je l'ai vécu. Donc on vous laisse faire les échecs. Bon, on ne travaille pas sans filet, hein, on est autour de vous, donc on vous rattrape. C'est ça l'amour d'une famille. Mais il faut accepter de faire des échecs. C'est pour ça aussi, bon, certains vivent un peu mal, qu'on pousse un peu la jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de faire leurs expériences, leurs épreuves, etc. Et il faut leur donner la chance et il faut que vous les aidiez. Ce n'est pas pour autant qu'on les mette sur un piédestal, mais qu'on leur donne des possibilités d'exercer et que très vite, ils puissent nous remplacer, qu'ils puissent aller plus loin que nous. Il y en a qui veulent que les jeunes aillent plus loin que nous. Bon, bah alors allez-y, ne soyez pas frustrés. Hein. Mais vous aussi, vous avez votre place. Moi, je ne dis pas place aux jeunes, je dis place à tout le monde. À tout le monde, ok ? C'est pas qu'aux jeunes. Mais les jeunes, effectivement, il faut leur dire, allez-y, on est là, on ne va pas vous condamner si vous avez fait une erreur, mais acceptez aussi d'être repris. Ben oui, mais c'est la contrepartie. Hein. Moi, je ne lance pas les jeunes en disant, ben, allez-y, et puis faites ce que vous voulez. Non, je dis, attends, tu viens là, on discute, hein, on fait le point, ok, ça c'est bien, c'est pas bien, maintenant tu continues pas, bon, il te faut une deuxième expérience, tu donneras une deuxième, si tu veux une troisième, bon, on sera toujours là, mais sache que, voilà, ça marche pas comme ça, c'est tout. Voilà, mais vous voyez, il faut encadrer, il faut être derrière, et c'est le Saint-Esprit, il nous fait ça avec nous, vous voyez, il fait ça avec nous, il nous permet qu'on ait des échecs, mais il nous relève à chaque fois. Amen. Voilà. Je vais terminer. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, il est dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Quand je lis ce verset, j'ai l'impression de lire ma vision. C'est pour ça que je l'ai trouvé compliqué, parce que c'est un verset compliqué, mais c'est la parole de Dieu. Il faudrait le travailler, il faudrait le creuser, mais il est puissant. Il est puissant parce qu'il parle de l'appel. La vision parle de l'appel. Et les choses sont complexes, pas compliquées, complexes. Parce qu'il y a notre nature, il y a la nature du Saint-Esprit en nous, la nouvelle nature, il y a les autres qui nous poussent, d'autres qui nous écrasent, d'autres qui se... Voilà, c'est complexe, la vie n'est pas simple. Voilà. Donc il faut prendre cette complexité et la travailler sous forme de vision. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Et si nous suivons cette vision, eh bien nous pouvons arriver au but. Amen. Soyons donc des chrétiens de Pentecôte, des pentecôtistes, qui ne devenons pas orgueilleux à cause des charismes. Déjà, ils ne nous appartiennent pas. Les charismes, ça veut dire des dons de l'esprit. Mais comprenons, en tant que pentecôtistes charismatiques, que l'enjeu de la vie chrétienne, c'est la sanctification. Sans laquelle, nul ne verra le Seigneur. La sanctification. Et c'est pour ça que dans cette église, on insiste sur la sanctification. Parce que c'est par la sanctification que nous vivrons une vie où nous produirons des fruits qui glorifient le Seigneur, qui montreront au monde qu'il y a une nouvelle race d'êtres humains. Hello? Est-ce que vous voulez faire partie de cette nouvelle race d'êtres humains? Et on n'aura pas besoin de lever des pancartes, hein. Je ne suis pas contre les pancartes, mais je suis contre le fait que quand ils nous voient, ils doivent voir Jésus en nous. Quand il nous voit agir, lui, là, il y a quelque chose qui et ils vont vous demander. Ils vont demander après, notre privé, parce que vous savez, les groupes, c'est jamais bon, les groupes, hein, parce que ça crée toujours des trucs bizarres. Hein, voilà. Mais à privé, ils vont me dire, mais tiens, Alexia, tu as fait ça, voilà. Puis là, vous pouvez parler. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer à les convaincre. Bon, vous répondez de votre foi. Vous voyez, c'est comme ça qu'un chrétien devrait être. Il devrait, par sa vie, par sa joie, par sa capacité à être, eh bien, être témoin de la vie qui est en lui et qui est supérieure à sa vie naturelle parce qu'elle est surnaturelle. Amen. Et ce chrétien-là, il est vrai à la première Pentecôte et ce sera vrai à la dernière Pentecôte, enfin, jusqu'à la fin, si vous voulez, de la moisson, quand Jésus va revenir. Il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Ceux qui vous disent quelque chose de changé, c'est une hérésie. Il n'y a rien de changé. Jésus n'a pas changé. La Bible n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Donc, la seule chose qui va changer, c'est quand Jésus va revenir. Mais pour l'instant, tant que vous ne le voyez pas, il n'est pas revenu. Hein. Okay, s'il y en a qui vous disent qu'il est là, ne le croyez pas. Jésus, quand il reviendra, il changera les choses. Et là, on aura notre discours. Aujourd'hui, ayons le discours de... suivre Jésus, suivre son esprit et le laisser agir et coopérer avec lui pour l'avancement de son royaume et de sa gloire. Amen. Seigneur, nous te demandons ton aide, nous te demandons ta grâce pour que nous ne tombions pas dans l'orgueil, que nous ne tombions pas dans la propre suffisance, que nous ne tombions pas, Seigneur, dans ce que certains chrétiens en ce moment essayent de nous faire croire que des choses ont changé, Seigneur. Mais que nous puissions rester, Seigneur, dans l'appel que tu as pour chacun de nous. Seigneur, de glorifier ton nom, de glorifier ton nom là où tu nous as placés, d'être des témoins de ta puissance et de ta grâce dans le nom de Jésus. Merci pour ton aide. Merci Seigneur de nous faire avancer, de nous faire progresser ensemble dans cette voie. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen.